Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous, merci d'être à l'écoute de Mélomanie pour le numéro de rentrée du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les vacances sont terminées, j'espère qu'elles se sont bien passées pour chacun d'entre vous. Pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison d'émission. J'ai aussi le bonheur de retrouver mon camarade Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Beaucoup de festivals ont eu lieu dans notre région en juillet et août, mais il va y en avoir encore d'autres en septembre-octobre. Et parmi eux, il y en a un qui commence tout juste et qui va se prolonger jusqu'à la fin du mois. C'est bien sûr Piano au Jacobin, l'un des principaux rendez-vous des amoureux du piano en France et même en Europe. Nous avons la chance de l'avoir à Toulouse dans le plus bel écrin qui soit, le splendide cloître des Jacobins. L'édition 2019 est la 40e du nom et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'un des deux cofondateurs du festival, Paul Arnaud Péjouan, qui le lança en 1980 avec Catherine Dargoubet. Autant vous dire que nous sommes impatients de lui poser de nombreuses questions sur l'histoire de Piano Jacobin et sur la programmation de cette 40e édition. Il faudra toutefois attendre pour ça la seconde partie de l'émission, puisque nous allons d'abord revenir sur l'actualité musicale récente avec Serge Chauzy. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité récente de la fin du mois d'août et du début du mois de septembre, ce sont les deux derniers concerts de la saison de musique en dialogue au Carmélite, donnés respectivement les dimanches 25 août et 1er septembre. Le premier était intitulé « Terre, nature et liberté ». Il réunissait la violoniste Elsa Gretter, le violoncelliste Aurélien Pascal et le comédien William Mesguich, qui œuvrait en tant que récitant. Serge, vous étiez présent à ce concert lecture auquel je n'ai malheureusement pas pu assister puisque j'ai couvert le festival de Rocamadour tout le mois d'août pour Radio Présence. J'y ai d'ailleurs interviewé Elsa Gretter, programmée en début de festival. Alors, quelle pièce musicale et quel texte était au programme le 25 août à la Chapelle des Carmélites ?
Eh bien, il s'agissait d'un programme tout à fait original, très intéressant, puisqu'il réunissait une violoniste et un violoncelliste. Il n'y a pas tellement d'œuvres dans l'histoire de la musique qui associent ces deux instruments et au sol. Et je dois dire que les deux pièces les plus connues, les plus emblématiques pour ce duo étaient au programme. Mais peut-être qu'il faut rappeler quand même que Elsa Gretter est une magnifique violoniste. Vraiment, moi, c'était la première fois que je l'entendais en direct. Et elle m'a scotché complètement par la projection de sa sonorité. Elle a une sonorité ronde, puissante, belle, une recherche de phrasé magnifique. C'est quand même quelqu'un qui est bardé de prix. Hein. Elle a été notamment lauréate du prix international Pro Musicis en 2009 et d'autres prix. Hein. Et son collègue d'un soir était donc Aurélien Pascal, dont le nom est bien connu en musique puisqu'il est le fils du pianiste Denis Pascal et de la violoncelliste Marie-Paul Milon. Bah, il a choisi la voix de sa mère, donc il est violoncelliste, excellent violoncelliste. Évidemment. Et lui aussi, avec des prix, notamment le premier grand prix du concours Emmanuel Feuermann à la Philharmonie de Berlin, ce qui n'est pas rien, puisque Feuermann a été l'un des grands violoncellistes du XXe siècle. Et puis le récitant William Mesguich, donc fils de son père, hein, évidemment, de
Encore
Daniel, et donc qui se livre souvent à ce genre d'activité. Il aime beaucoup hein, lier la musique et les mots. Donc les notes et les mots, comme c'est dit dans la présentation de ce mini-festival de dialogue musical au Carmélite. Alors, les œuvres qui étaient inscrites au programme, d'abord il y avait deux grandes œuvres qui étaient tout d'abord le duo opus 7 pour violon et violoncelle de Zoltán Kodály, le Hongrois, donc le compagnon de Béla Bartók en même temps, et puis la sublime sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu et qu'on entend hélas pas très souvent. Et là, on a été vraiment ravis d'entendre leur complicité, leur cohésion dans ces deux œuvres. Et puis ensuite, il y avait une berceuse qui est extraite des 8 pièces de Ranulf Glier, compositeur russe, hein, une pièce pleine de tendresse, hein, très chaleureuse. Et puis ensuite, il y avait une œuvre du XXe siècle, puisqu'il y avait une œuvre de Philippe Hersant, qui s'appelle « Por qué lloras », c'est-à-dire « Pourquoi pleures-tu ?». C'est une œuvre tout à fait émouvante, d'après une mélodie séfarade, et donc qui a aussi été magnifiquement jouée par les deux, là, formidable. Et puis comme il fallait terminer par une pièce un peu brillante, eh bien ils ont terminé par la Passacaille de Handel, qui est extraite d'une pièce pour clavecin, mais dans une transcription d'un compositeur norvégien qui s'appelle Jon Halvorsen, donc c'était le retour de la lumière après l'ombre que projetait la pièce de Philippe Hersant. Donc vraiment, ce qui caractérise ce concert, c'est l'émotion. Il y avait vraiment une émotion contenue, sans démonstration excessive, vraiment un engagement musical des deux qui faisait plaisir à entendre et à voir, puisqu'ils étaient en même temps très animés et très liés l'un à l'autre. Ça a été vraiment un magnifique concert qui a eu un triomphe vraiment de la part de l'assistance, qui était la nombreuse d'ailleurs, pour ce concert du mois d'août à la chapelle des Carmélites.
Alors, les pièces de musique étaient entrecoupées de lectures de textes par William Mesguich. Voilà. Quels sont les textes et les auteurs qui ont été lus ?
Là aussi, c'était vraiment intéressant et très bien assorti avec la musique, puisque ça commençait par une pièce anonyme qui s'appelle Mater Natale. Et puis ensuite, il y avait des extraits ou des poèmes de Lamartine, de Louis Aragon, et puis de poètes un peu moins connus comme Khalil Gibran, et Bjørnstjerne Bjørnson, excusez-moi pour la prononciation, mon norvégien n'est pas très au point. Voilà, c'était des pièces. Alors, il y avait de Lamartine, une pièce qui s'appelle La Terre Natale, et puis Milly ou La Terre Natale, de nouveau. Vraiment, c'était très lié à Terre, Nature et Liberté, qui était le titre de
la... Tout était relié ou à la Terre, ou à la Nature et la Liberté, aux trois.
Voilà, exactement. Et donc, William Mesguich fait ça avec beaucoup de simplicité, un charme, mais direct. Hein. Il n'en rajoute pas, il fait les choses avec beaucoup de cœur, mais sans en rajouter par rapport à l'expression. Et donc, ça s'insérait très très bien entre les pièces musicales. Et je dois dire que l'apothéose, ça a été quand même la sonate de Ravel.
Oui.
Là, vraiment, vraiment, là, il y avait à la fois une grâce. Vous savez, ce premier mouvement qui évoque un peu le quatuor de Ravel dans son déroulement. C'était une grâce absolue. Puis animée, fébrile, poétique et dynamique. Il y avait absolument tout. Donc, ce qu'il faut retenir de ce concert, c'est essentiellement cette interprétation de Ravel. Mais tout le reste était évidemment de très haut niveau.
Dans cette splendide chapelle des Carmélites, où le père de William Mesguich, Daniel, a souvent fait des lectures dans le cadre du marathon des mots.
Absolument.
Alors, nous allons retrouver maintenant Elsa Gretter et son violon, avec lequel elle fait vraiment des merveilles. Elle joue ici la fameuse chaconne de la partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
La chaconne de la partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Elsa Gretter. La violoniste donnait donc le concert lecture Terre, Nature et Liberté avec Aurélien Pascal et William Mesguich à la chapelle des Carmélites dimanche 25 août. Et au même endroit, le dimanche suivant, c'est Claude Debussy qui était à l'honneur grâce au pianiste Cyril Guillotin, associé au comédien François Martouret pour la lecture des textes. Là, nous étions présents tous les deux, Serge, et il faut qu'on précise d'entrée que Debussy était le seul compositeur au programme de ce concert intitulé « Notes françaises » avec ses très beaux préludes, les 12 du premier livre. Pour les textes, quels auteurs a-t-on pu entendre ?
Ah ben, de nombreux auteurs. Il faut quand même préciser que l'interpénétration entre les textes et la musique était plus, j'allais dire, intime que d'habitude. Il y avait certains poèmes étaient lus en prélude à l'œuvre, d'autres après l'œuvre, et commenter l'œuvre après coup,
et certains pendant
l'œuvre, oui. Donc en même temps. Alors ça peut déconcerter un peu d'entendre des paroles sur un prélude de Debussy, mais finalement c'était très bien fait, avec intelligence et sensibilité, et donc ça a très bien marché. Puis François Martouret est un expert en la matière, il sait très bien faire ça. Donc il y avait des textes signés Victor Hugo, évidemment qui s'appellent en particulier Soleil couchant, puis Paul Verlaine. Évidemment, bon, Paul Verlaine, c'est le grand poète à associer à toutes ces musiques-là. Du Rimbaud, du Baudelaire, Louise Ackermann, Paul Valéry, vous voyez. Hein,
autre contemporain de Debussy.
Autre contemporain, Yosa Bouzon, haïku, puis Théophile Gautier, René Frény. Et puis, il y avait aussi, alors c'était les deux extrêmes, William Shakespeare, donc ça en remonte loin.
Shakespeare, il y avait une bonne raison, on va l'expliquer.
Absolument. Et puis Bernard de Ventadorn, où on remonte encore plus haut,
Troubadour,
bien connu. Et donc voilà, il y avait absolument tous ces textes, et qui collaient vraiment aux pièces musicales, puisqu'il s'agissait des 12 préludes du premier livre, l'intégrale des 12 préludes du premier livre. Alors évidemment, quand on accompagne... Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, des harmonies du soir de Baudelaire. Donc évidemment que ça cadre parfaitement. Et puis pour la danse de Puck, que pouvait-on trouver de mieux que le monologue de Puck, « Tu songes d'une nuit d'été » du grand William. Tout ça, c'était très bien adapté. La fille aux cheveux de lin, par exemple, était associée à « Sensation » d'Arthur Rimbaud. Et la sérénade interrompue avec une sérénade de Théophile Gautier. Donc il y avait vraiment un lien très étroit entre les textes et la musique. Pour ma part, j'ai été vraiment très impressionné par la manière dont Cyril Guillotin a interprété la cathédrale engloutie. Alors ça...
C'est très beau, oui.
Ça, c'était stupéfiant. Il a mené ce crescendo de manière implacable. C'est une pièce admirable, évidemment.
Oui, et qu'on l'a entendu jouer...
On enfonce les portes ouvertes en disant
ça. Oui, mais aussi, évidemment, on ne peut pas échapper au jeu des comparaisons.
Et non,
ça a été joué, enregistré par de très grands pianistes, et les préludes de Debussy, notamment la cathédrale engloutie. Et je dois dire que, moi, sa version m'a beaucoup plu.
Ah oui, moi aussi, hein, vraiment. C'était magnifique. Et puis, il savait enchaîner les choses. Elle est passée d'une pièce violente, relativement, hein, comme ce qu'a vu le vent d'Ouest, entre des pas sur la neige.
Ah oui, alors là, c'est beaucoup plus intimiste. Tout
évidemment.
De suite.
Et la fille aux cheveux de lin également.
Oui.
Donc, il y avait des.
Oui, parce qu'il y a des ambiances très différentes.
Ah hein, oui, tout à fait.
C'est 12 préludes. Hein.
Oui, oui. Donc, très, très beau. Vraiment un beau moment où le duo, d'ailleurs, Cyril Guillotin et François Martouret, est un duo d'une complicité incroyable.
Oui, j'allais employer le terme complice.
Ah oui,
très
non,
complice.
Mais à la pièce finale, François Martouret s'assied même à côté du pianiste et même il va tapoter un peu quelques
notes.
Il va l'embêter exprès, oui.
Ouais.
Mais tout ça, c'était très bien. Mise en scène, en quelque sorte.
Ça, il ne faut pas qu'on oublie de le dire, très important.
Non, parce que c'était mise en scène et en lumière par André Benchetrit, une metteur en scène. Et donc, elle a fait ça avec beaucoup de tact et beaucoup de finesse, sans en rajouter là non plus, sans s'imposer aux deux artistes.
Hein. C'était sobre, mais très parlant, quand même, je trouve.
Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est amusant, parce qu'ils étaient tous les deux habillés en blanc, et quand ils arrivent sur scène, ils échangent leur rôle, puisque c'est le comédien qui va s'asseoir au piano, et c'est le pianiste qui va s'allonger sur la chaise longue qu'occupera plus tard le comédien. Donc, il y avait beaucoup d'esprit, beaucoup de finesse dans ces échanges entre les deux musiciens. Et le comédien, l'acteur que l'on connaît bien, François Martouret. Vraiment.
Qui est aussi un excellent lecteur. Hein.
On
le connaît, très bon comédien, mais également excellent lecteur. Oui, tout de blanc vêtu avec un chapeau de paille.
Un chapeau de paille, oui.
Et il existe des photos de Debussy comme ça, l'été, à la campagne. Il venait d'ailleurs au bord du bassin d'Arcachon, un peu au Pays Basque sur la fin de sa vie, alors qu'il était déjà malade, malheureusement. Ça donnait, je trouve, ça donnait un côté estival, mais aussi un petit peu fantomal aux deux protagonistes.
Et en plus, de temps en temps, il y avait quelques bruits qui apparaissaient. On a eu d'abord des chants d'oiseaux, entre deux pièces, puis des bruits de vagues, puis un orage a éclaté, et puis on a eu droit aux cigales après, et puis à des cris d'enfants. Mais c'était très bien fait, ça ne faisait pas artificiel par rapport à la musique de Debussy. Ça s'intégrait très bien au style pianistique de Debussy.
Bah, il y avait une ambiance impressionniste, alors je sais que Debussy ne revendiquait pas forcément le terme.
Non,
mais bon,
et d'ailleurs Cyril Guillotin lui-même précise que c'est un peu limité Debussy qu'à le limiter à l'impressionnisme. Ça va au-delà. Hein.
Quand on sait l'influence qu'il a eue jusqu'à nos jours d'ailleurs, parmi les compositeurs de son temps et ceux qui l'ont suivi,
c'est
un peu le limité.
On pense à Dutilleux, par exemple, qui est vraiment... Takemitsu, voilà des compositeurs.
Oui, parce que son influence a dépassé largement nos frontières.
Largement. Donc
tous les jazzmen.
Absolument.
Les grands jazzmen.
Les grands jazzmen, effectivement.
Oui.
Miles Davis adorait Debussy.
Oui, bien sûr.
En général, les jazzmen aiment tous Stravinsky, notamment le Sacre du Printemps, mais ils aiment bien aussi la musique française début du XXe siècle, celle de Debussy et de Ravel, et même d'Eric Satie.
Oui.
Alors, il y a eu un bis.
Ah oui, il y a eu un bis. Alors un bis qui est tout à fait improvisé. Cyril Guillotin lui-même m'a dit après qu'il n'avait pas prévu de jouer un bis, mais devant l'insistant, d'abord ça a eu beaucoup de succès de la part du public, et François Martouret a insisté pour qu'il joue un bis, et il a joué le 20e nocturne, le fameux nocturne opus posthume, qu'il a magnifiquement joué, vraiment. C'était une très belle conclusion, complètement en dehors du cycle de Debussy, mais quand même...
Chopin près Debussy, c'est pas forcément idiot, si je puis dire, puisque Chopin était une des influences quand même de Debussy, comme il a été pour beaucoup d'autres compositeurs français de cette époque. Eh bien, je n'ai pas d'extrait de prélude de Claude Debussy joué par Cyril Guillotin, mais j'ai le bis qu'il a joué dimanche, cette pièce de Frédéric Chopin. Je vous propose donc d'écouter le Nocturne numéro 20 posthume de Frédéric Chopin, interprété par Cyril Guillotin. Le Nocturne numéro 20 posthume de Frédéric Chopin, joué par Cyril Guillotin, avec qui nous concluons donc cette première partie d'émission. Petite pause avant de retrouver Serge Chosy et Paul-Arnaud Péjoin dans quelques instants pour évoquer avec eux la 40e édition du festival Piano Jacobin. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31, le journal La Voix du Midi, et avec Paul Arnaud Péjouan, cofondateur et co-directeur artistique de Piano Jacobin, l'invité de ce numéro de rentrée alors que commence tout juste la 40e édition de ce festival qu'il a fondé en 1980 avec Catherine Dargoubet. Nous allons bien sûr nous intéresser à la programmation de cette édition 2019 avec vous dans quelques instants, mais je voudrais profiter de votre présence dans ce studio pour remonter 39 ans en arrière. Quand vous créez Piano Jacobin en 1980, est-ce que le concept du festival était exactement le même qu'aujourd'hui? Et peut-être surtout, comment imaginiez-vous la suite?
Le concept, il était le même, mais sans que nous le sachions vraiment. Puisqu'on avait fait le pari de la jeunesse, on n'avait aucun mérite, on était jeunes.
Oui, vous étiez étudiant. Mais vous étiez
on étudiant, était étudiant, enfin moi j'avais terminé, à l'époque c'était un doctorat de troisième cycle en droit international, et Catherine était étudiante en médecine, elle finira sa spécialité d'ophtalmo un petit peu plus tard, parce que les études médicales sont plus longues. Mais donc notre ADN c'était la jeunesse, oui c'était évident, et puis nos amis de l'époque c'était Michel D'Alberto, c'était Marie-Catherine Giraud, c'était Jacques Gauthier, c'était David Lively, c'était donc cette génération de pianistes français avec qui on avait créé des liens de très grande proximité. Et il faut savoir que la première année de Piano Jacobin en 1980, le budget global pour les 8 concerts, c'était 10 000 euros. Puisque sur 8 pianistes, 5 étaient venus jouer gratuitement par amitié pour nous. Et ce qui nous a permis donc de créer ce concept où on a eu cette idée avec Catherine d'associer ce lieu mythique, extraordinaire, qu'est le Quad des Jacobins, au piano en particulier, alors qu'il y avait déjà, nous n'avons pas inventé le concept de concert au Cloître des Jacobins, puisqu'il y avait déjà Musique d'été, qui était organisée par l'Office de tourisme de Toulouse et qui présentait plusieurs concerts, mais plutôt des concerts, des récitals avec instruments, musique de chambre, des chœurs. Enfin, c'était pas une programmation très caractérisée d'un point de vue musical. Et donc, on a eu l'idée de consacrer un festival intégralement au piano, parce que Catherine et moi, le piano était notre passion. Donc, moi, j'avais fait une année de fin d'études à Paris, où j'allais au concert pratiquement 4 fois par semaine avec cette équipe-là. Donc, et on allait écouter François-René Duchap, bien sûr, à l'époque, etc., qui sont donc devenus des amis du festival et qui nous ont permis après d'ouvrir le festival et d'accueillir des légendes, on en reparlera tout à l'heure. Mais dès la première année, alors on n'a pas eu la possibilité dès la première année d'avoir entre guillemets de très grandes figures, on a quand même eu la chance de créer le festival avec le parrainage amical de Paul Badura-Skoda qui a accepté tout de suite d'être le parrain du festival parce qu'il a trouvé ce projet audacieux et tout à fait intéressant, qui viendra la seconde année, il viendra la seconde année au festival, il nous fera l'amitié d'être présent. Et ensuite on va avoir la chance et puis je crois aussi ce talent particulier que Piano Jacobin a permis à la fois de faire connaître toute une génération, une nouvelle génération de pianistes, mais qui a aussi permis de redécouvrir les grands maîtres du XXe siècle qui n'avaient jamais joué à Toulouse. Je pense à Vlado Perlemutter, je pense à Chora Cherkassky, je pense à Firkusny, je pense à Gorgui Chandor, qui est devenu un de mes amis très proches. J'allais le voir à peu près tous les ans à New York dans son extraordinaire petit studio sur Central Park. Je pense à Lazar Berman, je pense à toute cette génération extraordinaire, Georges Bolette, Georges Xifra. En fait, cette incroyable génération qui sont maintenant des légendes du piano. On a eu Orchowski qui est venu jouer à 99 ans.
J'allais parler d'Orchowski.
99 ans au festival. Donc, cette génération de pianistes que nous avons pu faire entendre au public toulousain et international, puisque le festival est quand même devenu international très vite par la qualité et l'originalité de ses choix artistiques, parce que je crois que ça, c'est le mérite de Catherine Dargoubet et moi avec elle, d'avoir réaccompagner justement ces immenses musiciens qui n'étaient plus vraiment revenus sur le devant de la scène après les années 80.
Ce qui me semble être une des grandes forces du festival, bien sûr c'est sa programmation, mais c'est ce lieu extraordinaire, magnifique, lieu du patrimoine religieux, mais qui se trouve être en plein centre d'une grande ville. Ce qui est une situation qui me semble pas unique peut-être, mais pas loin.
Pas loin, puisque à ma connaissance, il n'y a pas d'autres cloîtres de métropole, puisque Toulouse a quand même la chance d'être sur un bassin de population d'un million d'habitants, d'être une ville, la deuxième ville universitaire de France avec 115 000 étudiants, d'être une ville avec un dynamisme incroyable, une recherche scientifique internationalement reconnue. On est la capitale mondiale aujourd'hui de l'aéronautique, puisque nous avons le privilège d'avoir dépassé Boeing en termes de construction d'avions, ce qui me fait un plaisir immense en tant que Toulousain, bien sûr. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a porté aussi le festival. Pour revenir au lieu dont vous parliez tout à l'heure, il y a une magie particulière du Cloître des Jacobins. je dirais qu'il y a une double magie de Claude Jacobin. Il y a une magie acoustique d'abord, qui fait que c'est, à ma connaissance, et j'ai fait beaucoup de salles de concert en Europe et dans le monde, il n'y a aucune autre salle où le public a une telle proximité avec l'artiste, puisque le premier rang est à 3 mètres du...
Ah oui, on est au pied du piano, ou presque.
Du piano. Donc, il y a un sentiment de proximité. C'est, à ma connaissance, la seule salle de concert au monde où le pianiste arrive en traversant le public, okay. C'est-à-dire qu'il arrive du côté du public, ce qui déjà crée une relation assez extraordinaire au niveau de l'arrivée. Et enfin, c'est un lieu, vous en parliez, c'est pour moi un lieu mystique. C'est un lieu qui est chargé de la plus haute spiritualité. C'est un lieu qui nous oblige. C'est un lieu où nous sommes les héritiers d'une immense histoire. Nous sommes les héritiers de personnes qui ont bâti ces lieux avec une foi qui nous dépasse aujourd'hui. Et je crois que c'est une fierté immense pour nous de faire résonner ce lieu avec une musique extraordinaire.
Alors, en 1980, quand vous lancez le festival avec Catherine Dargoubet, est-ce que vous aviez déjà l'ambition de l'inscrire dans la durée? Vous vous projetiez à quel horizon? On va faire ça quelques années et puis on verra?
Oui.
Parce que vous étiez tout jeune, alors, vous aviez peut-être d'autres envies à l'époque.
Oui, ben on avait d'abord... on a travaillé 10 ans de façon totalement bénévole, Catherine et moi, au festival. On a commencé à se salarier à mi-temps au Jacobin au bout de 10 ans. Ce qui a permis d'ailleurs au festival d'avoir le développement qu'il a eu, parce que tout l'effort économique de Jacobin a porté sur l'artistique et son rayonnement, puisqu'on avait une masse salariale de zéro. Donc évidemment, c'était un accélérateur de molécules, ou de particules plutôt. Mais personne ne peut dire à 25 ans ou à 20 ans, dans 40 ans, nous serons là.
Ça, certainement
c'est,
pas.
C'est, ou alors d'un optimisme béat, ou alors... Donc personne ne pense ça. Par contre, l'idée de pérennité, on l'a eu tout de suite. On n'a jamais commencé Jacobin en disant « il n'aura pas lieu l'année d'après », puisqu'on avait une raison très simple, on ne pouvait pas inviter tous les pianistes qu'on connaissait la première année, donc on avait déjà programmé la seconde année et une partie de la troisième. Donc le festival, il avait déjà une vue à moyen terme. Et ensuite, évidemment, le succès aidant, parce qu'il faut quand même savoir que Jacobin a rencontré le succès dès la deuxième année, on a rencontré un succès public, une reconnaissance publique, qui s'est ensuite bien sûr accéléré. Et puis c'était l'époque bénie, il faut le savoir, où on pouvait accueillir 1100 personnes au cloître des Jacobins, alors que des mesures, on va dire, bizarres de nouvelles réglementations européennes nous limitent maintenant à 540 personnes au niveau du public. Il y avait 1200 personnes pour Gorgui Zifra, 1200 personnes. Il y avait 300 personnes debout. 300 personnes debout, sans un bruit, qui ont écouté un concert absolument magique. Donc, on a eu cette chance de rencontrer le public très vite, et après, évidemment, le festival, il s'est développé. On l'a accompagné, on l'a nourri de personnalités pianistiques extraordinaires, et permettre aussi aux nouvelles générations de démarrer et de se pérenniser dans leur carrière.
Vous avez cité quelques-uns des grands noms qui sont venus au Jacobin, mais il y en a eu d'autres. Par exemple, Richter vient dès les années 80.
Non, il vient un petit peu plus tard.
Sur la fin de sa carrière, donc.
Oui, sur la fin de sa carrière.
Et Alfred Brendel.
Voilà. Alors, ça, ce sont aussi, il faut le dire, c'était des concerts très compliqués à monter. Et on a pu les monter en partenariat avec grands interprètes, parce que c'était des artistes qui étaient très, très difficiles à faire venir. Parfois, on a débordé un peu sur le mois d'octobre, parce qu'ils étaient,
pas disponibles.
Mmh. Qui voyageaient. Bon, Richter ne se déplaçait qu'en voiture, ne prenait jamais l'autoroute, on le sait. Voilà, et donc il avait une relation. Et Richter n'a pas joué au cloître, il n'a joué qu'à la Lohengrin, comme Orchowski, à cause de son grand âge, pas fait jouer aussi au cloître. Donc il y a eu quelques très grands pianistes qui ont joué, et Brendel aussi, à ma connaissance, qui a joué à la Lohengrin. Donc on a eu quelques très grands qui ont joué à la Lohengrin pour des raisons évidentes de confort, et voilà. Mais beaucoup de très très grands artistes ont accepté de jouer au cloître. Je pense bien sûr à Martha Argerich, qui est venue plusieurs fois, avec Nelson Frère, ou parfois seul. Et je pense à Christian Zimmermann, qui nous a fait l'amitié de venir jouer dans le cloître. Quand on connaît l'exigence artistique extraordinaire de Christian Zimmermann, qui est venu avec son piano, qui a accordé son piano sur place, etc., dans le plus grand secret qu'on a d'habitude, sont des souvenirs merveilleux.
Alors, vous parlez de Martha Argerich parce qu'il y a eu des fidélités qui se sont instaurées avec de grands pianistes, donc je pense à elle bien sûr, mais il y en a eu d'autres. Menahem Pressler. Aldo Ciccolini.
Oui.
Peraya aussi est venu, je pense.
Menahem Pressler, ça fait partie aussi des artistes avec lesquels on a établi une véritable relation d'amitié. Bon, Menahem Pressler a été le pianiste du Beaux-Arts Trio, donc je ne sais même pas combien de concerts ils ont pu faire ensemble. Je crois qu'ils ont fait plus de 150 disques avec le Beaux-Arts Trio. C'est des carrières à l'époque de la gloire du 33 Tours, donc c'est des carrières tout à fait exceptionnelles. Et je me souviens, c'est un personnage facétieux, extrêmement drôle, gourmand. Les après-concerts avec lui, où il disait Quelle joie j'ai de jouer enfin en solo. Et donc, il a retrouvé une deuxième jeunesse après le Beaux-Arts Trio et il avait beaucoup de choses à dire en récital. Et oui, c'est des souvenirs incroyables.
Et en parlant de fidélité, il y en a une qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. C'est sans doute la plus ancienne, mais je pense bien sûr à Elisabeth Leonskaya.
Tout à fait. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle est venue...
82 peut-être la première fois.
Oui, mais elle est venue... Plus de 7 fois, je n'ai pas tous les comptes en tête, mais plus de 7 fois, c'est vraiment quelqu'un que nous aimons énormément, que le public aime énormément et qu'il suit avec passion depuis longtemps. C'est une grande dame avec une générosité incroyable et oui, elle fait partie du premier cercle du festival.
Donc elle est encore présente cette année. Qui sont les grands pianistes d'aujourd'hui qui sont venus tout jeunes et inconnus ou quasi inconnus à Piano Jacobin ?
On va parler du plus local de tous, qui est Bertrand Chamaillou, oui. Hein, puisque quand même, j'en parle avec d'autant plus de plaisir que Bertrand, dans beaucoup d'interviews, dit qu'il a eu deux grandes écoles de piano, le conservatoire et le festival Piano Jacobin, hein, puisque je crois qu'il y est venu avec ses parents à l'âge de 6 ans, donc il a écouté justement toutes ces légendes dont on parlait, et que lui découvrait, et que ses parents redécouvraient, qui étaient les Cherkassky, les Firkusny, les Orchowski, les Chandor, etc. Toutes ces gens du piano et qu'il a eu la chance d'entendre très jeune. Et je pense que ça a aidé à construire, c'est un pianiste qui a un immense talent, qui fait la grande carrière que nous connaissons aujourd'hui, mais je pense que ça l'a aidé aussi à construire son imaginaire musical.
Vous l'avez eu dans la programmation Piano Jacobin, il avait quoi, 15
14 ans.
14 ans. On voit la carrière qu'il a faite depuis.
Donc on a fait d'énormes projets avec Bertrand, notamment des projets très originaux. On a fait l'intégrale des années de pèlerinage en 3 heures de concert, qui était une performance extraordinaire, et sur le plan intellectuel et sur le plan physique, parce que c'est une œuvre d'une très très grande exigence qu'il a joué de façon incroyable. On a fait un très extraordinaire projet au musée des abattoirs avec les pianos préparés de John Cage.
Formidable.
Et voilà.
J'ai un souvenir ébloui de ce concert. C'était exceptionnel.
Le public, on se déplaçait de salle en salle, le public suivait Bertrand et les pianos préparés. On a fait, si ma mémoire est bonne, l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, le projet avec la danseuse, pareil, sur des musiques de Steve Reich, je crois. Avec Bertrand, on a une telle relation maintenant d'amitié qu'on peut imaginer des projets qui sont au-delà du projet de récital simple. C'est un garçon qui est en perpétuelle invention.
Alors, parmi les pianistes, les grands pianistes d'aujourd'hui qui ont commencé tout jeune à Piano Jacobin, il y en a un qui est également programmé cette année, c'est Boris Berezovsky.
Oui, Boris Berezovsky, il était déjà connu.
Il est arrivé tout jeune quand même.
Il est arrivé très jeune au festival. Pareil, Boris est devenu un ami. Je crois que c'est la 6e ou 7e fois aussi qu'il vient au Jacobin. C'est un grand russe. Je crois que quand on dit c'est un grand russe, on a tout dit.
Mais c'est une force de la nature.
C'est une force de la nature et c'est un héros de roman russe. Hein, c'est un grand vivant, un grand gourmand. Il a un son extraordinaire, comme beaucoup de pianistes russes, mais lui avec une qualité de projection et d'incarnation tout à fait particulière. C'est un chouchou du public aussi, hein, comme Leonskaya. Il est assez fidèle à Toulouse. C'est pourquoi d'ailleurs il va clôturer à la Halle aux Grains, parce qu'évidemment, nos nouvelles restrictions de public dans le cloître ne permettent pas d'accueillir toutes les personnes qui veulent écouter Boris Berezovsky pour la clôture du festival.
Alors, comme Boris Berezovsky est justement au programme de cette 40e édition qu'il va donner le concert de clôture lundi 30 septembre à 20h à la Halle aux Grains, comme vous l'avez dit, il va jouer un programme où son compatriote Rachmaninov est très présent. Entre autres, il va jouer sa sonate numéro 2, opus 36, que je vous propose d'écouter tout de suite sous les doigts inspirés du grand pianiste russe.
Thank you.
La sonate numéro 2, opus 36 de Serge Rachmaninoff, interprétée par Boris Berezovsky, une des œuvres au programme du concert de clôture que donnera le grand pianiste russe lundi 30 septembre à la Lograin. Berezovsky est venu de nombreuses fois à Piano Jacobin, on l'a dit, il fait vraiment partie de l'histoire du festival. Et en parlant de l'histoire du festival, comment a évolué la programmation de Piano Jacobin au cours de ses 40 éditions? Je pense notamment au jazz, qui maintenant fait partie intégrante de cette programmation. À quel moment fait-il irruption dans les programmes?
Il a fait irruption, si ma mémoire est bonne, dès la troisième année, puisque grâce à Marc Julia, qui était un fou de jazz à l'époque, j'ai pu rentrer en contact avec Randy Weston, l'immense pianiste américain qui est mort l'année dernière, je crois, et que nous avons eu d'ailleurs il y a 2 ans ou 3 ans pour un de ses derniers récitals au Jacobin. Je dis immense, je crois qu'il faisait 1m94, Randy Weston, c'était vraiment aussi une force de la nature. Et donc, je crois qu'on a invité Randy Weston pour la 3e ou 4e édition de Piano Jacobin. Donc ça, c'était le début. C'était une manière de dire qu'on ne s'interdisait pas de faire du jazz. Évidemment, dans la région entre Jazz in Marciac et Jazz sur 131, il faut être très pertinent dans ses choix. On ne peut pas rivaliser avec Jazz in Marciac, qui est probablement le plus grand festival de jazz de France aujourd'hui, qui a une programmation magnifique, qui a une salle de 6000 places, donc évidemment, qui peut recevoir les plus grandes stars du piano jazz. Donc nous, on a essayé de construire, alors on a fait comme ça plusieurs incursions dans le jazz, notamment un concert qui est devenu historique et légendaire, qui est le concert que Michel Petrucciani a fait à la Lograin. Alors je ne sais plus quand, mais c'était, je pense, dans les années 95, qu'il fait un concert avec, je me souviens, de son premier numéro qui était Caravane, qui a duré, je crois, 28 minutes sans interruption. Donc un concert qui est resté dans toutes les mémoires. Et ensuite, on a toujours présenté à peu près un concert de jazz dans nos programmations. Et le jazz est devenu vraiment une part significative, puisque maintenant, on est entre 4 et 5 concerts de jazz par an, il y a à peu près 4 ans. On a un partenariat très privilégié avec la Fondation BNP Paribas depuis 37 ans, donc depuis pratiquement la création du festival, qui a donné une grande impulsion, qui est le grand mécène du jazz en France. Et donc, ça nous a permis de faire des rencontres évidemment passionnantes et qui fait que on joue à la fois, comme dans le classique, la carte de pianiste très reconnu. Je pense à Jacques Quitterasson. Je crois que Jacques Quitterasson, c'est la 4e ou 5e fois qu'il vient au Jacobin. On l'a amené 2 fois en Chine. Donc, c'est un ami très proche et un garçon absolument merveilleux. Et cette année, on va donc présenter Jacques Quitterasson. On va présenter l'inclassable Gonzalez.
Chili Gonzalez.
à la Lograin, que nous avons déjà présenté il y a 2 ans. Je crois malheureusement qu'il reste 10 places à vendre, si ma mémoire est bonne, pour Chili Gonzalez. Et puis, on présente aussi Paul Lai, qui est un jeune pianiste tarbé.
Remarquable.
Qui fait une carrière formidable et qu'on a vraiment aidé, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on l'a fait jouer il y a 6 ou 7 ans, donc à ses tout débuts, et qui était pareil en Chine avec nous il y a 2 ans. Et puis je suis très heureux d'accueillir une des stars absolue du jazz cubain qui est Rolando Luna, qui vient de faire un triomphe à Marciac au mois de juillet en première partie de Chucho Valdés avec le groupe El Comité. Et on est en train de bâtir une histoire passionnante avec Cuba au niveau du piano et du piano classique et du piano jazz, puisque nous enverrons François Dumont jouer à La Havane au festival Classica Habana fin novembre pour exporter Piano Jacobin à La Havane. Donc Carlos Madrigal est le directeur artistique et aussi formidable pianiste cubain classique à l'occasion. Et Rolando Luna est donc une personnalité incroyable du jazz, capacité d'improvisation, une énergie incroyable. Et comme Aldo Lopez Gavilan, qu'on avait invité l'année dernière, aussi cette double formation classique et jazz qui leur donne une capacité justement d'interprétation très supérieure à des jazzmen qui n'ont fait que du jazz dans leur vie. Et ça, pour nous, ça va être un concert, je crois, extraordinaire, le concert de Rolando Luna, le samedi 14.
Oui, de manière générale, d'ailleurs, la programmation jazz de cette année, la partie jazz de Piano Jacobin, est merveilleuse. Alors, pour ce 40e volet de Piano Jacobin, forcément symbolique, même si le 40e anniversaire du festival sera fêté l'année prochaine, en 2020, comment vous avez souhaité célébrer l'événement dans votre programmation? Est-ce que c'est, entre autres, en y invitant quelques-uns des grands musiciens qui ont marqué l'histoire du festival?
Oui, bien sûr. Ben, le fait que ce soit Christian Zacharias aussi, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est la 7e fois qu'il vient au festival. Magnifique musicien. musicien qui aujourd'hui partage sa carrière entre chef d'orchestre, enfin il est plus chef d'orchestre que concertiste aujourd'hui, mais justement il nous fait l'amitié, il est venu il y a 2 ans et il nous fait l'amitié donc, d'ouvrir cette 40e édition. C'est pour nous symboliquement bien sûr très important que ce soit lui, et c'était très important aussi que derrière Christian Zacharias il y ait un jeune, et qui pouvait-on choisir de mieux qu'Alexandre Kantorov pour cette édition, qui a remporté le grand prix, le premier prix Tchaïkovski en juillet dernier, et donc qui est vraiment le pianiste que tout le public français attend avec impatience.
Premier français à gagner le
concours Tchaïkovski depuis sa création, même si Lucas Debargue, il y a 4 ans, avait fait sensation.
Oui, il n'était pas loin non plus.
Il avait eu le 4e prix, mais on peut dire le premier prix de cœur du public, puisque ça avait été un succès absolument extraordinaire, et qu'il avait été invité par Gergiev tout de suite après son 4e prix, et que nous avons accueilli au Jacobin l'année suivante, puisqu'on a eu Lucas Debargue il y a 3 ans au festival. On est assez heureux d'avoir présenté ces deux pianistes qui ont eu le même immense professeur qu'Irena Sharefskaya, professeur à l'école normale, qui a réussi quand même cet exploit extraordinaire d'avoir 2 élèves à 2 concours successifs qui ont été les 2 héros des 2 concours. Donc c'est quand même incroyable.
Oui, donc Christian Zacharias, Alexandre Kantorov ce vendredi soir. Et puis dans la programmation, ceux qu'on a vu souvent, entendu plutôt souvent au Jacobin, Nelson Gerner, Nicolas Sengelich, Philippe Bianconi, et bien sûr, Boris Berezovsky et Elisabeth Leonskaya qu'on a cité tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, les régionaux de l'étape, en tout cas, les pianistes issus de notre région. Vous avez parlé de Paul Lai, qui est Arbais, mais il y a aussi David Frey, qui est Arbais,
oui.
Et Adam Laloum, qui oui. vont se produire à la suite, le 18 et le 19 septembre. Là aussi, piano jacobin, ça a été, pour beaucoup de pianistes de notre région, un formidable tremplin pour leur carrière.
Oui.
C'est une vocation aussi, ça, du festival, d'aider les talents locaux.
Quand on a l'occasion, Nathanaël Gouin dans les jeunes d'aujourd'hui, nous invitons en Chine aussi l'année prochaine, chaque fois que l'on peut participer à une carrière d'un jeune qui est en plus lié à Toulouse de la région, je dirais que c'est un double plaisir, évidemment. Évidemment. Et on a la chance, c'est quand même une chance, d'avoir eu, entre Bertrand Chamaillou, Adam Laloum et Nathanaël Gouin, 3 pianistes quand même qui font des carrières magnifiques, bon, même si Nathanaël est le plus jeune, donc il a encore un parcours à effectuer, et Paul Lay en jazz. Je crois qu'il ne faut pas faire de régionalisme pour faire du régionalisme, mais quand on a cette chance-là, c'est vrai que c'est assez extraordinaire d'avoir, ils ont chacun à peu près 8 ans d'écart, d'avoir eu ces 3 magnifiques personnalités musicales dans le...
Et puis quand la qualité est là...
Mais évidemment.
Pourquoi s'en priver?
Pourquoi les limiter, hein?
Non, mais c'est un double plaisir.
Oui. Bien plus qu'on en parle. On va écouter Adam Laloum, merveilleux pianiste et poète du clavier, comme on les aime dans cette émission. Le voici qui interprète le premier intermezzo opus 117 de Johannes Brahms.
Thank you.
Adam Laloum qui jouait le premier intermezzo opus 117 de Johannes Brahms. Le jeune pianiste toulousain est en concert au Cloître des Jacobins jeudi 19 septembre à 20h avec un programme d'œuvres de Beethoven, Schumann et Schubert. Nous avons parlé du concert d'Alexandre Kantorov, l'étoile montante du piano français. Est-ce qu'il y a un ou des tout jeunes pianistes à découvrir absolument cette année ?
Oui, évidemment, sinon...
Alors on va en avoir des noms.
Sinon, ça serait pas... on trahirait notre vocation aussi. Ben, nous avons justement, la semaine prochaine, Martin James Bartlett, qui est un jeune Anglais qui commence à beaucoup faire parler de lui et qu'on est très heureux d'accueillir. Il a été découvert au BBC Proms avec un récital extraordinaire. Il a été finaliste du Van Cliburn. Et je pense que ça va être la révélation de ce festival et on attend beaucoup. Il a 21 ans, je crois, ou 22 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, on attend beaucoup de son concert. Il y a un autre jeune aussi que nous invitons, mais qui, c'est pour la deuxième fois, on l'aime beaucoup. C'est Pavel Kolesnikov, qui est un magnifique pianiste de l'école russe, qui nous avait enthousiasmé quand il est venu et on est ravis de l'accueillir à nouveau. Et puis, on parlait des Français, il y a Ismaël Marguin aussi, qui fait partie de cette jeune génération de pianistes français que nous avons invité souvent, que nous soutenons beaucoup et qui est un pianiste passionnant et qui viendra, lui, dans le cadre d'une programmation très originale qui est la nuit du piano romantique.
Alors,
français.
Je voulais en parler, ça, parce que voilà. C'est vraiment l'événement original, je crois, de cette 40e édition. Cette nuit du piano romantique français qui va avoir lieu où, d'ailleurs ?
Au Cloître des Jacobins.
Voilà, au Cloître des Jacobins.
Donc, c'est trois concerts de 50 minutes les uns après les autres. Donc, ça va être une soirée, c'est vraiment une soirée 40e, quoi, une soirée un peu festive avec trois personnalités extraordinaires. Chagajeg, je ne sais jamais prononcer son prénom, c'est très compliqué, mais Nosrati, qui a déjà beaucoup de prix internationaux, qui vient pour la première fois au festival, ainsi que Alessandro Deljavan, qui est déjà bien connu du milieu pianistique international et qui viendra pour la première fois au Festival Piano Jacobin et qu'on est vraiment très heureux d'accueillir dans ce cadre donc, d'une programmation très originale autour de compositeurs français qui sont moins joués que des compositeurs davantage connus du public, comme Chopin, Liszt, Brahms, etc. Et je crois que ça fait partie aussi de la vocation du festival, de faire découvrir aussi à notre répertoire.
Alors c'est en partenariat avec le Palazzetto Bruzzan, que ne connaît peut-être pas le grand public, il faut dire ce que c'est.
Qui est une fondation qui fait un travail absolument remarquable de redécouverte du patrimoine musical français, principalement du 19e siècle, de l'âge romantique, et à la fois au niveau de l'opéra, au niveau des œuvres symphoniques et au niveau des œuvres instrumentales, dont le piano. Ils ont aidé à redécouvrir énormément de compositeurs qui étaient très peu joués, ou pour certains, pas rejoués du tout depuis très longtemps.
Oui, il y aura vraiment des découvertes à faire lors de cette nuit du piano romantique français, le 21 septembre, au Cloître des Jacobins. Notez-le bien. Alors, comme nous parlions de jazz et que nous évoquions juste avant les jeunes musiciens à découvrir lors de cette 40e édition, nous allons faire d'une pierre deux coups en écoutant ce jeune pianiste britannique, Martin James Bartlett, interpréter un morceau repris par beaucoup de grands et surtout de grandes du jazz, « The Man I Love » de George Gershwin. The Man I Love de George Gershwin, devenu un grand standard du jazz, notamment grâce aux versions qu'en ont données des chanteuses comme Billie Holiday ou Ella Fitzgerald. Là, c'est donc Martin James Bartlett qui l'interprétait au piano, comme il l'interprétera mardi 10 septembre à 20h lors de son concert au Cloître des Jacobins. Alors, une autre originalité cette année, je voudrais qu'on termine là-dessus, vous avez l'habitude de délocaliser des concerts. Il va y en avoir, ça c'est pas la première fois, à la salle Altigone de Saint-Orens et à l'Escale de Tournefeuille. Et puis, il y aura un nouveau lieu, c'est l'Envol des Pionniers à Montaudran.
Qui est un lieu magnifique, ça me touche beaucoup parce que je suis un admirateur depuis extrêmement longtemps des héros de l'aéropostale, de Saint-Exupéry, de Mermoz, de Guillaumat, qui pour moi sont des très très grands hommes du XXe siècle qui ont permis cette extraordinaire aventure de l'aviation et du transport aérien. Et ce musée est magnifique. Et nous mettrons le piano dans la salle de l'avion de la TECOER, qui était, alors je n'ai plus la référence exacte de l'avion, qui était un hydravion, qui a fait la première traversée Atlantique Sud. Donc c'est un cadre tout à fait singulier, et on a invité un pianiste très singulier, qui revient lui aussi, si ma mémoire est bonne, pour la troisième fois au festival, qui est Willem Lachoumia, qui est un pianiste d'une très grande sensibilité, qui a toujours des programmes très très originaux. Et nous lui avons demandé de bâtir un programme sur le thème du voyage, et notamment de l'Espagne, puisqu'il faut savoir que la première ligne de l'aéropostale suivait la côte, puisqu'à l'époque, le directeur du musée d'envol des pionniers m'a dit que sur les 80 premiers pilotes de l'aéropostale, 60 étaient morts.
En vol.
C'est là que l'on mesure. Bon, je crois que dans l'espace, il y en a 4 qui sont morts, et on en a fait des héros. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas d'être héroïsés, bien évidemment, c'est des héros de l'espace. Mais ces types-là, quand même, la génération, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Invraisemblable, le niveau de courage et d'abnégation qu'il a fallu pour qu'après sécuriser les lignes et avoir... Donc, il suivait la côte espagnole et après, il partait sur le Sénégal, la Mauritanie et le Sénégal.
Saint-Louis du Sénégal. Voilà.
Ouais, donc, il y aura un programme avec une dominante de musique espagnole parce qu'on a essayé quand même de rendre hommage à cette extraordinaire génération de pionniers, l'envol des pionniers et qui en plus est... intimement lié à l'histoire de Toulouse, hein. C'est quand même...
Absolument. Voilà. Ouais, si on a l'aéronautique à Toulouse, c'est bien parce qu'il y a eu ces gens-là.
C'est parce qu'il y a eu des gens comme la TECOER, qui sont aussi des génies, quoi, des inventeurs incroyables.
Ces merveilleux fous volants, comme on les appelait, c'est pas pour rien. Nous devons hélas conclure cette émission de rentrée, à laquelle je remercie chaleureusement mon ami Serge Chosy d'avoir participé. Vraiment ravi de recommencer une nouvelle saison de Mélomanie à vos côtés, Serge. Tous mes remerciements également à Paul-Arnaud Péjouan d'avoir honoré ce numéro de sa présence et d'avoir exploré avec nous la programmation de la 40e édition de Piano aux Jacobins, inaugurée jeudi avec le concert de Christian Zacharias. Elle se poursuit donc jusqu'au lundi 30 septembre. Beaucoup de magnifiques pianiste à entendre et à découvrir. Je vous invite à consulter rapidement le site du festival pour connaître le détail de ce millésime 2019, les musiciens, les dates, les horaires, les lieux des concerts, www.pianojacobin.com. Vous y trouverez également les tarifs et toutes les informations pratiques nécessaires. Il y a d'autres concerts la semaine prochaine, notamment celui que donne l'orchestre de chambre de Toulouse avec la violoniste Sarah Descamps à la salle L'Odyssée de Balma. C'est le vendredi 13 septembre à 20h30. Avec un programme russe d'œuvres de Tchaïkovski, Arensky et Borodine. Renseignements et réservations sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Notez également que la 5e édition des Pages musicales de La Grasse dans l'Aude vient tout juste de commencer. La direction artistique est assurée par un certain Adam Laloum. Il y a de très beaux concerts jusqu'au dimanche 15 septembre et toute la programmation est consultable sur le site www.festival-lagrasse.fr. Vous pourrez aussi acheter et réserver vos places. Merci à l'ami Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission. Comme d'habitude, ce numéro est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée musicale.